Bonjour Madame Clermest.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Eh bien, je suis médecin psychiatre. Je travaille donc au CHU de Saint-André. Je suis également anthropologue. Et j'ai une consultation qui s'appelle la consultation transculturelle. Et j'accueille avec une équipe des populations migrantes pour un soin psychothérapeutique, c'est-à-dire un soin par les mots.
Votre profession est-elle un choix ?
Oui, la profession de médecin ne peut être qu'un choix parce que ce sont des études qui sont longues, qui sont difficiles. Et le choix de psychiatrie aussi ne peut être que volontaire parce que qui dit psychiatre dit s'intéresser aux troubles psychiques et donc on peut dire à la folie quelque part. Donc en effet, il faut être un petit peu armé, il faut bien réfléchir si on veut s'engager dans ce métier-là.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Alors, ce qui me plaît dans mon métier, c'est l'ouverture sur les autres. D'abord, c'est le soin. Je crois qu'en tant que médecin, tout médecin a besoin de soigner. Ça, c'est une chose. Et en plus, par les mots, donc c'est un soin long qui nécessite de la patience. Hein. Ce n'est pas aussi rapide que, par exemple, avec des comprimés. Donc ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Et puis, c'est l'ouverture vers les autres, vers les autres qui souvent viennent de pays très différents, puisque moi, je soigne des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent de l'Asie, qui viennent de la Russie, de très loin. Donc ça, c'est un aspect de mon métier que j'aime énormément.
Pour vous, que signifie le mot « engagement » ?
Alors pour moi, l'engagement, c'est une réalité quotidienne dans mon métier. Hein. C'est un engagement, d'abord professionnel, comme je vous le disais, c'est un engagement citoyen. C'est faire tout pour que toute personne, même si elle ne parle pas le français, puisse avoir accès à un soin comme celui que je propose, par les mots. Ça, c'est un véritable engagement. Et c'est pour ça que donc depuis maintenant presque 20 ans, j'ai monté une association. J'ai rassemblé des interprètes, j'ai rassemblé une équipe pour être formée à tout ce que je fais. Donc c'est un engagement au long cours, donc sur des années. Et puis c'est aussi un engagement qui nécessite de demander de l'argent, par exemple, tous les ans. Donc c'est aussi un engagement associatif.
Et comment faites-vous pour communiquer avec vos patients ?
Alors voilà, ça c'est tout l'enjeu du soin, hein, du soin, ce qu'on appelle le soin transculturel ou interculturel, c'est de pouvoir communiquer. Donc, on a des interprètes, on a recruté des interprètes qui sont intéressés par le travail parce qu'il ne suffit pas de parler de langue, il faut aussi être vraiment intéressé par ce soin-là. Hein. Des interprètes qui savent parfaitement choisir les mots pour traduire ce que disent les patients. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je suis aidée par des psychologues et des anthropologues. Les anthropologues connaissent, par exemple, les pays d'où ils viennent. Par exemple, si on a des patients qui viennent d'Afrique, alors d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est, ou bien des personnes qui viennent de Russie ou d'Arménie, on a une idée d'où ils viennent, comment ils vivaient avant, comment ils éduquaient leurs enfants, par exemple, comment ils se représentaient leur vie, hein, leur vie, la maladie, le malheur, etc. Donc ça, c'est pour mieux, c'est pas seulement pour communiquer avec les gens, mais c'est pour mieux les comprendre et mieux prendre en compte le pays d'où ils viennent et puis aussi le fait quand ils sont partis, ils ont perdu beaucoup de choses, ils ont dû vraiment s'adapter à une nouvelle situation.
Par qui êtes-vous financé ?
Alors, la consultation dont je m'occupe, elle est dans l'hôpital. Donc, en partie, c'est l'hôpital qui nous finance puisqu'on a des locaux dans l'hôpital. Mon poste est hospitalier et j'ai quelques personnes qui sont salariées de l'hôpital. Et une autre partie, c'est l'association MANA. Et là, les financements viennent de l'État, du Conseil général, de la mairie et de l'ONU, une organisation internationale, parce que nous soignons des personnes qui ont été victimes de la torture et de la répression politique. Voilà, donc c'est un soin aussi très spécifique.
Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à la revue ?
Alors en effet, je m'occupe d'une revue qui s'appelle L'Autre. Hein, L'Autre, comme les personnes dont je m'occupe, ce sont des autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est très peu de personnes qui faisons ce type de soins. Donc, la personne qui est la plus reconnue en France pour ce soin-là, qui est un médecin elle-même, qui s'appelle Marie-Rose Moreau, elle a créé cette revue, la revue L'Autre, et elle m'a demandé d'y participer, d'être ce qu'on appelle rédactrice en chef, c'est-à-dire de s'occuper du contenu de la revue, qui est une revue scientifique. Et bien sûr, moi j'étais très intéressée parce que d'abord, c'est une façon de faire connaître notre travail. C'est aussi une façon de dire ce que l'on pense de la situation, par exemple, en France des étrangers. Et puis c'est une façon d'écrire. Et moi j'aime beaucoup écrire aussi.
Quelle cause défendez-vous et quelle est votre motivation?
Alors, la cause que je défends, c'est d'abord que toute personne qui est sur le sol français, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa langue, puisse avoir accès à un soin par la parole. Voilà. Donc ça, c'est ma première motivation. Et après, c'est ma motivation profonde, c'est aussi que toute personne ait accès à un soin et que la barrière de la langue ne soit pas un obstacle. C'est pour ça que nos interprètes, ils interviennent dans tout le CHU, en fait. Toute personne qui ne parle pas français devrait pouvoir avoir un interprète pour l'aider à communiquer avec son médecin. De même que les sourds-muets, par exemple, c'est obligatoire. Ils peuvent avoir quelqu'un qui parle le langage des signes. Donc, on estime que les personnes qui ne parlent pas français doivent avoir aussi cette possibilité-là. Donc, ça, c'est ma motivation profonde. Et puis, bon, une motivation aussi non négligeable, c'est la justice. Hein.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager?
Alors, là aussi, c'est une histoire personnelle. Et puis après, c'est une histoire de rencontre. Quand j'étais jeune médecin, j'ai rencontré des hommes qui n'arrivaient pas à expliquer ce qu'ils avaient justement. Et moi, j'estimais qu'on les soignait mal. Hein, on les soignait mal. Donc ça a été vraiment une rencontre qui, pour moi, m'a beaucoup troublée. Et je me suis interrogée, je me suis dit, mais qui c'est qui peut les aider? Comment on peut les aider? C'est comme ça que j'ai rencontré donc des gens qui faisaient ce métier-là, justement, qu'on appelle ethnopsychiatrie. C'est un terme un petit peu compliqué. Et donc, bah, ça m'a fascinée en fait, hein. Ça m'a beaucoup plu. Et comme moi déjà, j'étais médecin et anthropologue, c'est-à-dire j'avais voyagé, j'avais fait des recherches ailleurs, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut pour moi.
Que signifie le mot anthropologie?
Alors, l'anthropologie, c'est ce qu'on appelle une science humaine, contrairement aux sciences exactes. Par exemple, les mathématiques, la physique, c'est une science exacte. L'anthropologie, c'est la science de l'homme, tout simplement. Les anthropologues, ils vont étudier l'homme et sa culture et surtout tout ce qui fait qu'on est autre. C'est surtout l'altérité qui fonde les recherches en anthropologie. Alors pour ma part, moi j'ai travaillé à Madagascar pour comprendre comment les gens se soignaient. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas la même façon de se soigner que nous, ils n'ont pas la même façon de penser leur maladie. Voilà, c'est ça qui fait que je suis anthropologue.
Selon vous, pourquoi les personnes en difficulté partent de leur pays natal?
Alors moi, je ne peux te parler que des personnes que je rencontre dans la consultation, parce que les raisons de partir, elles sont très multiples. Hein. Je pense que la raison la plus profonde, c'est l'espoir d'avoir une vie meilleure. Ça, c'est le cas pour toutes les personnes. Après, moi, celles que je rencontre, ce sont des personnes qui ont déjà beaucoup souffert dans leur pays parce qu'ils ont rencontré, alors il y a, par exemple, ceux qui ont rencontré la guerre, ceux qui ont rencontré le risque d'être emprisonnés, par exemple, pour des raisons, pour leurs idées politiques. Il y a ceux qui ont connu la faim, il y a les femmes qui ont connu la violence, toutes sortes de violences, d'ailleurs, violences domestiques, violences politiques, voilà. Puis il y a les jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui ont entre 12 et 15 ans et qui partent de leur pays, soit poussés par leur famille, soit parce qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de famille, soit parce que, ils ont fait des choses mal dans leur pays et qui préfèrent partir. Voilà. Donc vous voyez, les causes sont très très vastes et ceux qui viennent dans ma consultation, c'est parce que bah, voilà, ils ont eu des souffrances psychiques très profondes, ils ont vu mourir les leurs, ils ont été torturés ou voilà, et donc ils ont besoin d'être aidés sur ce plan-là, quoi.
Les personnes dont vous vous occupez.
Alors, les principales personnes viennent d'Afrique. Alors, là où il y a des conflits, justement, des guerres ou des guerres civiles, le Congo, voilà, tout à fait, il y a la République démocratique du Congo, hein, beaucoup, beaucoup. Mais il peut y avoir le Congo, le Tchad, voilà, donc c'est surtout ces pays-là. Des personnes qui viennent de ce qu'on appelle le Caucase, donc l'Arménie, la Géorgie. Il y a aussi la Russie. Alors, en Russie, il n'y a pas de guerre, mais il y a beaucoup de mafias, en fait. Il y a beaucoup de racisme anti-caucasien, justement. Donc, beaucoup de personnes qui fuient le racisme. Voilà. Et puis, de temps en temps, des personnes qui viennent du Sri Lanka, hein, le Sri Lanka qui est une île au sud donc de l'Inde, où il y a eu une guerre civile aussi très, très, très importante, très grave. Voilà. Sinon, il y a l'Afrique anglophone également. Donc, le Nigeria, en ce moment, il y a beaucoup de troubles au Nigeria entre les chrétiens et les musulmans.
Étant donné que vous aidez les personnes en difficulté, êtes-vous amené à les orienter vers d'autres structures, logements ou autres?
Alors oui, de façon générale, je travaille toujours avec d'autres structures. J'ai des réunions avec, par exemple, ceux qui s'occupent de l'urgence. Et c'est ensemble qu'on dit, voilà, lui ou elle ou cette famille a besoin de soins. Donc de façon permanente, je suis en lien avec d'autres structures d'aide sociale, d'aide au logement. Par contre, il peut arriver en effet que c'est arrivé ce matin même, hein, où une famille d'Arméniens dorme dans la rue. Ils ont été mis donc à la porte de leur logement. Et là, par contre, en effet, j'ai essayé de contacter un réseau de militants. En fait, je travaille aussi avec des militants comme RESF, comme d'autres associations, comme le réseau Paul Bert, par exemple, pour leur envoyer des personnes qui, en effet, sont vraiment ne connaissent pas leurs droits du tout. Ils sont vraiment dans une énorme difficulté, bien sûr. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas travailler seul avec des publics aussi en difficulté.
C'est possible que certaines personnes en difficulté rejettent votre aide?
Alors, ça m'est très rarement arrivé, en fait. Quand les personnes arrivent dans ma consultation, ils ont été un peu préparés, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont rencontrer une équipe, que je leur explique aussi que c'est un soin par les mots, parce qu'ils peuvent être un peu déroutés de voir un médecin qui n'a pas de blouse blanche, par exemple, et qui travaille avec d'autres. Donc, je leur explique en des termes simples, comme je vous l'explique à vous. Et il m'est arrivé d'avoir des personnes, soit qui d'emblée me disaient non, je ne suis pas intéressée. Soit qui me disait, ben, pour l'instant, j'ai pas envie, mais je reviendrai. Hein. Ça me rappelle une histoire, d'ailleurs, je peux peut-être vous raconter une petite histoire d'un jeune, comme ça arrive malheureusement de plus en plus fréquemment, comme je vous disais, il y a beaucoup de jeunes qui quittent leur pays. C'est un jeune Tchadien. Donc, un jeune Tchadien qui avait fui le Tchad parce qu'il avait été enlevé par l'armée pour aller se battre donc sur la frontière du Soudan. Donc, il était mineur à l'époque. Et comme il s'était enfui, il avait été arrêté, il avait été torturé et il était venu en France. Et donc ce jeune que j'ai soigné très longtemps était scolarisé d'ailleurs. Hein, et puis il n'arrivait pas à avoir un statut pour rester en France. Donc il était très, très désespéré en fait. Et donc il m'a dit ça sert à rien de parler, j'en ai marre, je m'en vais. Je lui ai dit ben, comme vous voulez, hein, ça, je ne peux pas vous empêcher de partir. Mais si un jour vous voulez me revoir, eh ben, revenez me voir. Quelques mois après, il a repris rendez-vous avec moi. Il m'a dit, ben voilà, je vous remercie quand même pour l'aide que vous m'avez apportée. J'ai eu mes papiers. Et de temps en temps, comme ça, il vient me voir et puis il me raconte, comme si j'étais un peu une grand-mère à qui il pourrait confier son chemin, ses soucis aussi, hein, parce que sa vie de jeune homme est très difficile. Voilà, mais bien sûr, on a des relations humaines et dans la relation humaine, il y a aussi le refus, hein, le refus d'être aidé, bien sûr.
C'est possible que vous utilisiez un expatient pour aider un nouveau venu?
Alors, c'est une question qui effectivement se pose à moi de temps en temps. Parfois, je me dis, ah, j'aimerais bien présenter tel patient. Alors, d'abord, il y a une dimension qui est importante, c'est le secret. Tous les patients, tous les médecins et ceux qui travaillent avec les médecins sont contraints au secret professionnel. Donc, normalement, on ne peut pas faire ce genre de choses, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers à médiation artistique, donc un atelier peinture, un atelier conte, un atelier de danse. Et bien sûr, les patients, ils sont entre eux, ils se parlent entre eux. Et c'est aussi une façon aussi pour eux de mettre en commun un certain nombre de choses. Et puis surtout, il y a des personnes qui arrivent, qui ont été envoyées par des anciens patients. Donc ça, oui, ça peut arriver parce qu'ils ont dit, bah, tu sais, va voir le docteur machin, il était sympa, il m'a aidé, etc. Donc je ne le fais pas trop souvent parce que je m'autorise pas à le faire, de peur, par pudeur en fait, hein, par discrétion, mais je sais aussi qu'entre les patients, il peut y avoir aussi des moments d'entraide, en effet.
Comment vous les aidez concrètement?
Alors, les personnes qui viennent jusqu'à moi, généralement, ils ne viennent pas tout seuls. C'est un professionnel, un autre médecin ou un travailleur social qui voit bien que cette personne a des difficultés psychologiques, qui m'appelle et qui me les envoie. Alors en fait, c'est vrai que ça paraît être un peu abstrait de pouvoir aider quelqu'un par la parole, mais il se trouve que justement pouvoir parler de soi, pouvoir partager sa douleur, eh bien ça aide. Ça aide pourquoi? Parce que on y voit plus clair en soi et parce que ça permet, je dirais, de maîtriser un peu plus sa destinée. Donc des fois, ça paraît vain parce que c'est comme quand ce sont des personnes qui n'ont pas de logement, qui sont très seules au monde. Et pour autant, c'est justement à ce moment-là que ces personnes-là veulent absolument venir parce que c'est le seul endroit finalement où on pourra prendre en compte leurs paroles, leur sincérité aussi, hein, et leur douleur. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus difficile que d'avoir le sentiment de n'être compris par personne, en fait. Voilà. Donc c'est ça le pouvoir de la parole. C'est tout simplement ça.